Eh bien, merci beaucoup. Si vous n'entendez pas suffisamment, vous levez les bras, parce que j'ai la voix basse. Là. Et donc, je vais faire devant vous ce que vous êtes appelés à faire tous et toutes, c'est-à-dire lire un évangile, parce qu'on est en train de lire l'évangile de Saint Matthieu, Saint Jean, Saint Luc, et de saisir un peu la trame de la miséricorde dans cet évangile-là. Sachant que je ne suis pas comme le père Jean-René Lacaisse, je ne suis pas un exégète de métier, ou comme le père Philippe Warnier, que vous avez entendu aussi. Donc, je vais m'attacher au texte, et en même temps, de temps en temps, je vais en donner une interprétation qui vaut ce qu'elle vaut, bon, voilà, mais qui reste attachée, ce qu'on dit, le sens spirituel, est attaché à la lettre de l'évangile. C'est ce que le père Jean-René Lacaisse vous a expliqué lors de la première leçon, si je me souviens bien. Voilà. Bien, un évangile, c'est très riche. Et donc, ce que je vais faire, c'est une lecture un peu en diachronie, c'est-à-dire en suivant des fils rouges à travers cet évangile, et pour être touché, pour saisir la cohérence de Luc comme évangéliste qui parle autrement que Saint Jean, et saisir aussi comment il parle d'une thématique bien précise qui est celle de nos cours du soir. Le premier point que je vais développer, c'est ce qu'il y a sur vos feuilles de route, que j'ai appelé l'archipel de la miséricorde. Mais vous savez bien que un archipel, ce n'est pas une île comme la Grande-Bretagne. Donc c'est un ensemble peut-être de conformations géographiques rattachées au continent. Et donc ce n'est pas un bloc massif, c'est une manière, on traduirait en belge, c'est un peu de la dentelle de Bruges, c'est trouver les traces de la miséricorde. Et ce premier chapitre, je fais appel de manière assez sobre à votre mémoire. La plupart d'entre vous avez certainement entendu, lu l'évangile de Luc, ou bien entendu parler de l'une ou l'autre de ces paraboles, et donc je vais faire appel à votre mémoire pour après, dans le deuxième point, entrer aussi avec ses arguments dans le vif du sujet. Quand je dis un archipel de manifestations miséricordieuses de Dieu en Jésus-Christ, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, variés. Et j'ai mis des mots pour rassembler ces éléments de l'archipel à travers des rencontres. Par exemple, celle de Jésus avec le paralytique et ses compagnons, chapitre 5. Avec Zachée, jusqu'à demander d'aller demeurer dans sa maison. Avec la pécheresse et Simon, dans la maison de Simon. Ou bien la description qu'on a entendue récemment dans la liturgie de la prière du pharisien et du publicain. Des rencontres, des paraboles, mais directement vous allez dire, mais oui, je connais, des paraboles de la miséricorde, celle des deux fils et du père prodigue au chapitre 15, celle de la brebis perdue, de la drachme retrouvée, celle de l'intendant avisé qui remet les dettes, thème très important, nous verrons, celle du bon samaritain. Des rencontres, des paraboles, des paroles précises de Jésus, je ne vais pas toutes les dire, mais quand même évoquer, devenez miséricordieux selon que votre Père est miséricordieux. Pardonnez sans cesse et vous serez pardonné, donnez sans cesse et il vous sera donné. Remets-nous nos péchés, dit-il au chapitre 11, car nous-mêmes, nous remettons à tout qui nous doit. Ou bien, sur la croix, au chapitre 23, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la parole décisive, en tout cas pour le premier saint canonisé, qui est le bon larron, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Des paraboles, des paroles, des regards significatifs du Christ, celui qui est posé sur Judas lors de la dernière scène, qui est différent de l'épisode joannique. Il dit, voici la main de celui qui me livre sans cesse est avec moi sur la table. Jésus en est conscient. Le regard posé par Jésus sur Pierre dans le palais de Caïphe, au chapitre 22. Des actes précis qui font penser quand même, qui mettent en acte la miséricorde, qui nous montrent la bonté de Dieu et de son Fils, par exemple, au baptême, par l'immersion du Christ dans les eaux du Jourdain, chapitre 3. C'est le symbole de celui qui se met au rang des pécheurs, Jésus, mais qui n'est pas pécheur. Et si on est d'accord sur le lieu du baptême du Jourdain, vous allez voir, ça dépend de la saison quand même, mais en général c'est un lieu très boueux, c'est pas les sources du Jourdain. C'est très boueux, c'est le lieu le plus bas, c'est symboliquement aussi le lieu où Jésus nous rejoint dans la condition d'homme et de pécheur. Ou bien la compassion de Jésus en de multiples occasions, quand il est ému de compassion à cause de la veuve de Naïm, et il lui dit « ne pleure pas ». Et puis, après avoir fait route avec les disciples d'Emmaüs, de manière incognito, ayant pris le pain, il le bénit, et l'ayant rompu, il le leur donna. Œuvre de miséricorde pour la foi défaillante des disciples d'Emmaüs, pour apaiser leur découragement, leur faire passer de la foi commune en Jésus historique, la foi en Jésus ressuscité. Et quand il bénit, eh bien, il marque la bénédiction, la bonté de Dieu, bénit ses apôtres avant de monter au ciel. Voilà, reprise de manière sobre, j'espère que ça voyage dans votre mémoire aussi. Voilà, la mémoire vive de l'ordinateur que nous dépassons, puisque nous ne sommes pas les ordinateurs. Voilà. Ça nous montre la variété des situations, d'événements à travers lesquels la miséricorde de Dieu se manifeste. Ce que le pape François a rappelé aussi en disant, dans d'autres termes, qu'il s'agit de faire des œuvres de miséricorde spirituelle et des œuvres de miséricorde matérielle. Ça forme un tout. C'est une pratique de la miséricorde qui peut prendre divers visages, comme nous le voyons chez Luc, celui du partage, du pardon, de la patience. Et le pardon est une forme privilégiée de la miséricorde. Ce pardon est particulièrement présent dans la troisième section de Luc, comme on reconnaît du chapitre 14 au chapitre 17, et qui culmine justement dans ces fameuses paraboles de la miséricorde dont j'ai parlé, les deux enfants du père prodigue, ou l'enfant prodigue et le fils aîné. C'est le modèle, en 6.36, du Père miséricordieux. Ce pardon, Luc le présente de manière prophétique, au sens où il est une expression de la miséricorde de Dieu dans l'histoire, d'une gratuité de l'action divine dans une histoire bien précise qui prend son temps, puisqu'elle a commencé à cette époque et se continue jusqu'à nous. Et cette prophétie est pascale, en ce sens qu'elle est mortelle et source de vie, parce que celui qui vit cet acte prophétique, Jésus le Christ, est en croix, et qu'il dit « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Pour Luc, il y a un chemin qui mène, à travers les paraboles, les regards, les rencontres, etc., vers le mystère du salut, qui est le Christ en croix. Saint Jean aussi, à sa manière, comme on vous l'a expliqué la semaine dernière, bien sûr, dans un regard plus contemplatif, mais ici, peut-être chez Luc, il y a cette parole de Dieu. On s'assiffle un peu, non ? Je ne sais pas quoi, mais... je dois me mettre. Je recule le micro. D'accord, je recule. Il avait fait la scène, quelque chose comme ça. Voilà. Bien, ça va mieux. Bon. Donc, pour Luc, j'indique quand même qu'à travers toutes ces considérations, ces variétés, la miséricorde, petit à petit, se sent sous la personne du Christ qui est miséricorde, comme nous le verrons. Le récit lucanien dévoile progressivement toute l'ampleur de la miséricorde incarnée en Jésus-Christ, livré pour les pécheurs. D'une certaine manière, c'est Jésus qui nous garde la porte ouverte et nous permet de passer dans la demeure de Dieu ou au ciel et de nous jeter dans les bras du Père. Il courut et se jeta dans ses bras, comme l'indique le titre de la conférence. Voilà comme l'archipel que vous connaissez et qui habite votre mémoire, qui habite l'Évangile. Voyons un peu l'histoire, c'est le deuxième point sur vos feuilles de route, et les soubassements d'une telle miséricorde. Dans le prologue lucanien adressé à Théophile, il est bon de constater que la miséricorde doit tenir compte de l'histoire et de la culture des lecteurs pour être comprise et pour manifester toute sa fécondité. Et les grands traits chez Luc, non pas d'une division, mais d'une distinction importante, c'est savoir si le lecteur est juif ou si le lecteur est non-juif. Et voyons un peu comment elle s'énonce. Je tire les fils, un peu comme une boule de laine, mais je vais repasser plusieurs fois au même endroit, mais je prends le fil du lecteur juif. Et pour le juif, qu'est-ce que c'est cette miséricorde chez Luc et aussi dans la Bible? Eh bien, je fais allusion aussi au premier cours du Père Jean, Rademakers, mais le juif perçoit principalement la miséricorde de Dieu dans le choix que Dieu fait de lui et de son peuple. Il l'a choisi. Et même avant cette élection, qu'on appelle l'élection, le choix de Dieu, le peuple élu, etc., avant l'élection, il y a le don même de la vie. Ce sont les premiers chapitres de la Genèse. Tout est bon à l'origine. Et les Juifs qui lisent leurs paroles, leurs écrits, l'Ancien Testament, ils commencent par les récits de la Genèse, où ils voient et se rappellent que tout est don à l'origine, tout est bon, et que la vie et le cosmos sont une image particulière de la miséricorde d'un Dieu qui donne vie, et qui donne vie. Ce n'est pas explicite dans la tradition juive toujours, mais c'est qui donne vie pour l'éternité, parce que certaines branches du judaïsme croient en l'immortalité, et d'autres moins. En tout cas, la vie est donnée une fois pour toutes. Dieu ne la retire pas, ne veut pas la retirer. Cette origine gratuite, c'est l'expression, prendre un langage un peu philosophique, d'une positivité de l'être, ou d'une positivité éternelle du Père, nous qui connaissons les trois personnes divines, d'une positivité aussi de chaque être humain à l'origine, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le signe, mais on peut parler comme Jean-Paul II, le sacrement primordial, le premier sacrement, ce n'est pas celui qu'on doit recevoir le premier, puisque c'est le baptême, mais le sacrement primordial, c'est un autre qualificatif, dit Jean-Paul II, c'est bien la relation, la coexistence face à face de l'homme et de la femme créés à l'image et à la ressemblance divine. Cette miséricorde-là, dès l'origine, n'est pas autre chose, elle peut être distincte, mais n'est pas d'une autre nature que l'amour du Dieu créateur. Que ce soit cet amour de bonté, que ce soit cette miséricorde, elle ne vient pas combler un manque à l'origine. À l'origine, tout était bon. Donc elle va manifester après la chute, après et dans nos rythmes de faute et de péché, etc. Mais elle va manifester toujours, dans l'histoire du peuple élu, et après pour nous chrétiens, la surabondance d'un amour originel qui a tout donné. L'être et l'existence par amour et pour l'amour. Cette gratuité de l'origine est un gage, un socle qui permet de traverser le temps des hommes, qui permet à la miséricorde de traverser ce temps le présent qui est parfois difficile ou l'avenir qui est angoissant, que l'homme ne sait pas toujours prévoir. Donc cette miséricorde a une saveur toujours de gratuité dès l'origine. L'amour que la miséricorde révèle est toujours gratuit. Cette création est issue d'un amour de pure gratuité. Elle est, comme dit un philosophe français, Claude Brouwer, elle est miséricorde de l'être. C'est un autre langage. Mais l'être que nous sommes, et aussi l'être de l'univers, ce qui nous entoure, sont imprégnés d'une positivité que rien ne peut altérer de manière absolue, car tous deux sont issus de la main du Créateur. Alors c'est sûr que quand on est dans un embouteillage et dans l'air pollué de Bruxelles, c'est quand même pas la grande positivité qu'on rencontre. Mais parfois à la mer ou bien dans les Ardennes ou sur une haute montagne, on peut retrouver cette attitude de contemplation et percevoir que le monde est beau malgré certains dangers. Voilà. Bonté originaire pour le juif. Et dans le texte, c'est une décision divine. Dieu l'a voulu ainsi. Vayar Elohim ki tov. Et Dieu vit que cela était bon. C'est le petit refrain du premier récit de la création. Donc, l'être ou les êtres, ça c'est un langage un peu philosophique, sont tirés du néant pour être eux-mêmes en liberté sous le regard gratuit de Dieu. Cette image originelle, c'est une image de l'alliance qui traverse tout. Les livres de l'Ancien Testament, les nombreuses alliances, et qui disent, non pas seulement la même chose, mais disent que la création, ce n'est pas un concept ou ce n'est pas un acte simplement à l'origine, mais qui disent que cet acte continue de manière permanente dans un lien, dans une relation qui est alliance. L'alliance est offerte. Alors bien sûr, l'histoire du peuple juif montre que elle a été refusée, elle a été bafouée, mais chaque fois redonnée et renouée par Dieu lui-même jusque dans l'alliance nouvelle et éternelle en son Fils. Mais c'est pour ça que déjà dans l'Ancienne Alliance, ce Dieu prend une figure historique et il est nommé dans le psaume 85 « Dieu de tendresse et de miséricorde, lent à la colère et plein d'amour pour ceux qui l'invoquent. » Ce Seigneur a un visage personnel, unique pour le peuple, élu, unique aussi pour tous les peuples. Il est le seul Dieu. Tous les autres dieux ne valent rien, ils ne sont que du vent. Tout au long de son histoire, le Juif fait l'expérience concrète d'une miséricorde qui vient de l'unique, mais qui devient sociale, communautaire, dans l'agir moral, qui est intérieur aussi, changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, mais non plus des cœurs de pierre, mais des cœurs de chair pour les prophètes, etc. Cette miséricorde est une expérience de la Bible qui fonde tout nouveau cri vers le Seigneur. C'est parce qu'on sait qu'on est miséricordier, parce qu'on sait qu'on peut s'enraciner dans la miséricorde, qu'on peut prier les psaumes, qu'on peut crier et supplier le Seigneur de nous sauver. Il l'a déjà fait quand il a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte, et il le fera, le Dieu, hier, aujourd'hui et toujours, est miséricorde. Donc je résume, la première image de la miséricorde est dans le don de la vie et dans cette familiarité d'alliance, l'appartenance quelque part à une même famille entre le Créateur et l'homme. Le péché, les péchés, les ruptures d'alliance ne surgissent que sur ce fond d'un amour positif qui est vie. Et dans l'Ancien Testament, s'exprime selon deux expressions dont le Père Jean vous a parlé, je crois, si j'étais là, que je redis. Une figure plus masculine, la chesed, donc qui désigne une attitude de bonté, une bienveillance, une faveur mutuelle entre les hommes ou entre l'homme et Dieu dans le cadre de cette alliance. Et cette chesed implique fidélité. Fidélité à ce qu'est Dieu. à son nom. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis ainsi, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom. Dieu lui-même dit qu'il est fidèle, pas seulement parce qu'il est obligé, comme créateur, de continuer à être fidèle, mais parce que son nom est saint et son nom est miséricorde. Et pour être fidèle à ce qu'il est, il donne miséricorde et il est miséricorde dans l'histoire. Et cette Hesed exprime une puissance de vaincre tous les obstacles. Une responsabilité de Dieu qui s'exprime comme cela. Un autre juif qui est philosophe, qui s'appelle Emmanuel Levinas, parlera du rapport à autrui comme d'une responsabilité infinie vis-à-vis d'autrui. Ton visage m'appelle, je suis responsable, je suis l'otage, je suis le sujet de ton visage. Et donc il applique à l'homme, ou à la relation fraternelle ou humanitaire, le nom divin. Mais la question est celle-ci, et Luc y répond, hein, tout doucement quand même. Ce qui est possible de la part de l'absolu de l'amour, l'est-il naturellement de la part de l'homme? Puisqu'on voit toutes ces alliances un peu refusées. Cette gratuité responsable de la recette de Dieu est-elle à la mesure de l'homme sans la grâce de Dieu? À travers l'Ancien Testament, mais à travers surtout l'Évangile de Luc, cette question est posée. C'est la question quand même de la fidélité et de l'alliance qui s'accomplit ou pas. Et pour Luc, elle s'accomplit dans la vie et dans la personne de Christ, dans le mystère de son incarnation et de la rédemption. Ces caractères un peu masculins de la miséricorde répondent à des traits plus féminins. Si vous vous souvenez, le terme « rahamim »,« rahem », c'est le sein maternel. Donc du lien profond et originaire entre une mère et son enfant naît une relation particulière qui s'exprime dans une abondance de sentiments, tendresse, patience, compréhension, ouverture et promptitude du pardon. La responsabilité vis-à-vis d'autrui est manifestée. Si quelqu'un peut m'aider, parce que le micro, ça. D'accord. On peut l'enlever, ça va. Donc, une abondance de sentiments, tendresse, patience, compréhension, ouverture et promptitude au pardon. Donc, ces sentiments-là, entre la mère et son enfant, qualifie aussi la relation entre êtres humains, qualifie aussi la relation entre Dieu et son peuple et chacun de nous. Une femme oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Point d'interrogation. Comment est-ce possible? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas, dit le Seigneur par le prophète Isaïe au chapitre 49, verset 15. Donc cette sollicitude, cette miséricorde maternelle de Dieu est invincible. Elle vainc tous les ennemis, pardonne tous les péchés. Venez, discutons, dit le Seigneur en Isaïe encore, si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Pour le juif, c'est quelque chose de connaturel. Alors, et le juif qui croit en Jésus, ou qui a suivi Jésus, ou qui suit Jésus, utilise ce langage. C'est pour ça que pour nous, ce langage est important, et on peut le revisiter avec le langage du Nouveau Testament, particulièrement. C'est ce que fait Luc, et quand nous lisons Luc, nous relisons aussi à la fois tout l'Ancien Testament. Si nous avons une perspective de lecteur juif, où elle peut être différente, si nous avons une perspective, la plupart d'entre nous, nous sommes goïm, des païens, ou des chrétiens depuis longtemps, mais qui ne sont pas originaires directement d'une famille juive, eh bien, l'évangile de Luc peut nous parler, mais alors d'une autre manière. Je termine ici pour vous montrer qu'au début de l'évangile de l'enfant, qui est caractéristique de Saint Luc, et à ce grand chant de grâce de Marie qui, dans le présent de sa vie, Eh bien, rends grâce pour la chesed de Dieu qui se manifeste de génération en génération envers ceux qui le craignent, envers elle et ceux qui le craignent. La naissance de Jean-Baptiste est perçue aussi par sa maman comme une miséricorde, et une miséricorde pour son peuple. Et la rencontre des deux femmes, que vous connaissez dans la Visitation, est une porte ouverte à cette miséricorde dans l'histoire, dans un nouveau chapitre de l'histoire, un chapitre où Jésus est annoncé par son cousin Jean-Baptiste. Voilà pour le non-juif, pour le juif, pardon. La miséricorde pour le non-juif, l'horizon est différent. On dit souvent, pour Théophile par exemple, que, en lui parlant, c'est une des multiples histoires. Il est prototype d'une multiples histoires qui se déroulent à la surface de la terre dans une situation religieuse quelconque. Et donc, quelle peut être sa perception de la miséricorde pour quelqu'un qui n'a jamais eu contact avec la parole de Dieu dans l'Ancien Testament? Comment comprendre la nouveauté et la richesse du Christ? Eh bien, Luc invite toujours à retourner à l'origine de ce qu'il vit pour le non-juif. Voilà ce que tu vis. Va au bout de ce que tu vis en toi. Reçois la vie en plénitude. Regarde ta vie ordinaire et la source de ton dynamisme de vie et vois s'il n'est pas un signe particulier de la présence divine. Et donc pour le non-juif, il faut entrer dans un chemin un peu différent, de percevoir dans l'action ordinaire, dans la vie ordinaire, dans ce qui fait, parfois certains disent la conscience, mais simplement sa vie, je suis en vie, quelle joie, eh bien je comprends la miséricorde qui m'est donnée. Le mystère premier est encore plus manifeste pour le non-juif, c'est celui de son existence. Comment suis-je? Comment est-ce que je parviens à exister? Comment suis-je venu au monde alors que je n'y suis pour rien? D'une certaine manière, puisque beaucoup de philosophes quand même sont reliés au monde grec, bien c'est la question des philosophes, pourquoi suis-je et comment se fait-il que j'aurais pu ne pas être? Ou bien, est-ce que quand je parle ou quand je rencontre quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un? Est-ce qu'il a une consistance ou c'est une illusion? Un phénomène, on dit en grec, un épiphénomène, ou quelque chose qui est une chimère que je ne rencontre pas vraiment finalement. Y a-t-il quelque chose aussi de permanent? Vous savez que le temps grec, c'est le temps d'une roue de vélo, hein, ou de la saison qui revient toujours la même. Et il n'y a rien de nouveau, un peu comme certaines paroles du livre de la sagesse, rien de nouveau sous le soleil, quoi. C'est un temps répétitif. Alors, où est la nouveauté? Et où est le changement? Mais aussi, où est l'invariable? Si quand même, concrètement, je constate qu'il y a des changements climatiques, maintenant, la tourterelle turque vit à Bruxelles, les perroquets, les perruches se multiplient dans le parc de Woluwe, pour prendre un exemple, eh bien, est-ce qu'on ne va pas vraiment tout nous changer, devenir un climat tropical? Qu'est-ce qui doit changer et ne pas changer? Ces questions existentielles peuvent être vécues de manière tragique ou harmonieuse. Percevoir une beauté de la vie qui se transmet de génération en génération, d'où la mode des arbres généalogiques maintenant, puisque si on ne sait pas très bien d'où on vient, on cherche quand même une racine quelque part, chez les Mormons ou sur un site adéquat. Bon, la liberté dont je vis est appelée, comme non-juif, à reconnaître cette existence dans l'étonnement, qui est une des étapes de la philosophie, dans l'admiration, ou bien dans le refus ou l'incompréhension du mystère de sa propre origine. Est-ce que cette vie dont je vis, ou cette vie, puisque je veux me marier ou je ne veux pas me marier, eh bien, elle est heureuse, elle a un sens ou elle est absurde? Donc les mêmes récits de Luc peuvent être lu à cette lumière. Et je poursuis cette lecture parce que la perception de la limite par un non-juif est-elle un appel à comprendre l'horizon sur lequel se dessinent ces limites? Si je me sens limité, je ne parviens pas à voler, ou bien pour prendre des problèmes, des questions psychologiques ou existentielles de corps, ben je ne suis pas très content d'être un homme, j'aimerais bien être une femme, bon voilà, c'est une question. Eh bien, est-ce que je parviens à assumer ces limites, à y consentir, à y trouver un sens ou pas? Ce qui est évident pour le juif ne l'est pas toujours pour le non-juif. Par exemple, pour le juif, le péché comme une infidélité à une relation personnelle entre Dieu et les hommes, il voit directement son infidélité dans l'alliance offerte par Dieu. Tandis que pour le non-juif, il n'y a pas nécessairement d'alliance. Peut-être il y a l'alliance noachique de Noé, mais peut-être il y a l'alliance de la vie, ou tout simplement ce que Luc appelle la dette, la créance. On ressent une dette parce qu'on vit et qu'on existe. Et cette dette, comment la payer, dirais-toi à Bruxelles. Voilà. Comment la payer? On la paye cher ou pas? Toutes les invitations au festin, en parabole du festin, peuvent être lues à cette lumière. Non pas dans un rapport à l'élection pour le juif, mais une juste réponse, ben, à une invitation à la fête, à un repas paisible et convivial, signe de l'amitié entre les hommes. Si le maître du festin ou du banquet invite à sa fête, eh bien, j'y vais ou j'y vais pas? Parce que je vis et j'aime vivre ou pas. Donc les rencontres chez Luc dont j'ai parlé sont aussi lisibles à ce niveau d'interprétation. Et c'est pour ça qu'on peut y lire une recherche de purification de certains actes mauvais commis à l'encontre de la pécheresse, par exemple. Là, on peut y lire le désir d'une renaissance, d'un pardon. Donc si la conscience humaine, je me situe pour un non-juif et non-chrétien pour l'instant, perçoit la réalité de l'innocence, et y aspire, c'est que l'homme vit à travers ses limites, d'un don originaire. Mais cette analogie de la dette est là, elle est bien présente, et Saint Luc joue avec cette dette. Elle se situe à deux niveaux, que ce soit pour le paralytique par exemple, au niveau de l'être humain et de son origine. Est-ce que, puisque je suis là, c'est pas tout bébé qui se pose cette question, bien sûr, mais parfois l'adolescent quand même, et parfois des grands métaphysiciens qui sont les enfants, eh bien, mais puisque je suis là, est-ce que je suis obligé de vivre? C'est quand même chiant l'école, hein? À quoi se lever le matin, ça sert à rien. Puis mon père est au chômage. Oh, voilà, je caricature un tout petit peu, là, vous voyez. Est-ce que c'est cette dette que j'éprouve à devoir vivre, surtout quand on est un peu fatigué ou en déprime, eh bien, est-ce qu'elle m'indique que je suis obligé de vivre, je suis obligé. Il faut bien gagner sa vie, hein, faut gagner son pain, hein, voilà. Ou bien, je vais utiliser un mot, utilisé aussi par un philosophe qui s'appelle Claude Bruère, mais un mot de vieille France, mais qui est encore dans un dictionnaire belge quand même, non pas une obligation de vivre, mais une obligeance. Obligeance, en espagnol, ça sonne bien. Est-ce que, je suis en obligeance, je suis très heureux de vivre, mais je me rends compte que faut dire merci à quelqu'un. Alors, je n'ai pas toujours papa et maman, comme pour un enfant, on peut dire, dis merci à ton parent parce qu'il t'a apporté un beau cadeau pour ton anniversaire. Non, je suis en obligeance et je ne sais pas qui est Dieu pour un nom juif ou un païen. Donc, l'analogie de la dette joue pas mal chez Luc, au niveau de l'être et de son origine, premier niveau, et au niveau de la rupture, de l'harmonie aussi. Je suis dans un monde cassé, je suis parmi des méchants, ou des voleurs, ou des brigands sur la croix. Bon, voilà, et ça c'est pour le Christ. Mais ce monde n'est pas si beau que ça. Je ne parviens plus à contempler une montagne, etc. Donc ma dette, je la sens lourdement. Le monde dans lequel je suis situé historiquement alourdit ma conscience de la dette que je suis. Et parfois, ça arrive aussi pour certaines personnes en fin de vie. Dit, mais je ne veux pas peser sur mes enfants, il faut que je parte. C'est une manière de s'exprimer. Hein? Bon. Qui peut payer ce genre de dette de l'existence et de la vie? Ces questions-là sont dans Saint-Luc. Elles donnent un sens à une vie ou pas. Et elles montrent la profondeur à laquelle le Christ plonge quand il nous sauve. Et tant pour le juif que pour le non-juif, Luc, en se centrant sur le mystère de la croix, où Jésus fait miséricorde et est miséricorde, eh bien, nous dit quelque chose, c'est déjà un peu la conclusion, mais c'est un peu tôt, mais nous dit quelque chose de la radicalité du salut en Christ. Il n'y a que lui qui peut payer la dette, l'endettement. Vous voyez, je ne suis pas en train de discuter au Conseil des ministres de la Belgique et tout ça, c'est quand même plus radical, parce que il y a des dettes qui sont insolvables, pas seulement pour des pays, mais... Bon, comme dit l'Ancien Testament, mais aussi Luc aussi, si je plonge dans le cercle de l'absurde, si je me pose comme Dieu, comme une idole, si je bascule dans l'angoisse et la peur, je ne parviendrai pas à rendre la dette que j'ai et la dette que je suis. Alors, vous savez bien qu'en français, il y a, je ne sais pas moi, j'ai une bicyclette, non, l'exemple est mal choisi, le verbe avoir et le verbe être. Voilà. Eh bien, j'ai une dette envers toi, mon ami, il faut que je te la règle avant la fin du mois, etc. Je suis une dette, c'est autre chose, ça touche mon être. Et comment puis-je rendre la dette que je suis ? La dette de mon existence et de ma vie, comment la rendre? Sinon, en la donnant, mais d'une certaine manière, si je la donne, ben, je ne suis plus moi. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? C'est une parole d'un psaume, oui. Mais c'est, comment le faire? Comment poser cet acte de créance? Et pourtant, c'est en réfléchissant sur cet acte de créance, et Saint-Luc le fait à travers les rencontres, les paraboles, le pardon, tout ça, que on prend conscience, ou que chacun prend conscience qu'il peut faire le bien. Et s'il faut parler un peu de morale, et de miséricorde, et de péché, et d'amour dans cette thématique, il faut bien voir que le moteur du bien faire, de rendre le bien ou de faire le bien, c'est cette conscience que j'ai que je suis un bien donné à moi-même et que je dois me rendre à quelqu'un par amour et pour l'amour. Et comment faire tout seul? Comment faire dans telle société? Comment faire dans telle famille? Toute l'éthique chez Saint-Luc dans l'Évangile, dans la morale, est suspendu à cette dette d'être éprouvé par celui qui lit, par celui qui agit, par la parabole, cette dette qu'il doit assumer positivement si possible. Comment rendre vie à ce que l'homme a détruit, la confiance, l'amitié, la vérité? Comment pardonner aussi la faute d'autrui que l'on a subie? Les hommes se font et se défendent à travers des actes qui les expriment. Et ce désir de renouvellement, cette soif de me donner ou de me redonner alors que je ne suis pas si blanc que ça, comme neige, eh bien, elle est à l'origine de mon être. Il y a une dynamique intérieure dans l'être, dans le lecteur de l'évangile de Luc. Parce que cette miséricorde, pour ça que j'ai parlé d'un archipel et d'une variété, cette miséricorde humaine et divine, elle se dit de manière variée, et elle se donne et se redonne dans la permanence des êtres humains. Et là j'interprète un tout petit peu, c'est que nous sommes libres parce que nous avons la possibilité et le temps de rendre tout le bien que nous sommes et que nous avons et que nous pouvons faire, qui nous a été fait. Donc c'est dans la liberté, dans des actes, que je peux payer la dette que je suis. Et tant que je vis, je suis un témoin d'une miséricorde possible. Tant que je vis, je suis un témoin que Dieu fait miséricorde à toute une génération, non pas parce que cette génération est parfaite, mais parce que cette génération a reçu la vie même de Dieu à un moment donné du temps. Je ne vais pas trop vite. L'originalité lucanienne, et il y a plusieurs traits que je vais parcourir. On va retrouver certains éléments dont j'ai parlé. Mais si vous prenez au chapitre 4, vous avez la parole de Jésus à la synagogue de Nazareth, où il dit, il cite les paroles d'Isaïe, qui proclame une année de grâce du Seigneur. Eh bien, Isaïe l'avait prédit, Jésus s'affirme en disant, ben voilà, ma présence inaugure cette année de grâce. Et le pape, dans la tradition de l'Église, eh bien, a instauré cette année de miséricorde. Quels sont les traits de cette miséricorde? La parabole de l'enfant prodigue, vous la connaissez bien, mais on ne peut pas la cacher quand même, c'est un monument. Elle nous enseigne que la miséricorde restaure la dignité de l'homme et sa dignité de fils. Un des biens perdus par le fils cadet, c'était sa dignité de fils dans la maison paternelle. Non seulement sa dignité humaine, mais son statut filial. Et en retournant à la maison paternelle, parce qu'il avait faim, tout simplement, mais instinctivement, il se dit, en plus du serviteur, je pourrais encore rester le fils, même si je suis dans un cabanon, et au rang de serviteur. Pourquoi? Parce que celui qui a été fils une fois le reste pour toujours. Au moment même où le fils perdu se réconcilie avec ses décombres, il est déjà chez lui à la maison auprès de son père. Car rentrer comme serviteur est une mesure de justice ou de survie, et retrouver le statut de fils est une mesure de miséricorde gratuite qui peut être pressentie mais qui n'est pas un dû. C'est pour ça que l'attitude du père, qui contrairement au chef de famille en Israël, en tout cas, est normalement assis à l'intérieur de sa maison, mais le père, il est debout chaque jour en train de guetter la venue de son fils cadet. Donc c'est, cette attitude gratuite, c'est la miséricorde. Si les biens sont dilapidés, la dignité de fils peut être retrouvée et redonnée. C'est la substance des retrouvailles. C'est ce qui justifie la joie du Père. Il dit, mon fils était mort, le voici qui est vivant. L'humanité de son fils est là. C'est ce qu'il dit au fils aîné aussi. La miséricorde voit dans l'homme qui revient la beauté de son humanité et la grandeur de sa filiation. C'est ce que nous enseigne cette parabole. Ce regard du Père est un regard divin. C'est cela qu'il enseigne au fils aîné. Il fallait bien festoyer, se réjouir, puisque ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. C'est une autre attestation dans l'évangile de Luc. Enfin, c'est pas ma thèse, mais j'insiste pas mal et souvent, que la joie de la miséricorde n'est pas issue seulement d'une angoisse qui s'apaise. Nous ne sommes pas, comme certains philosophes, pétris d'angoisse et avoir le monde dans une obscurité totale, sauf dans le don de l'être. Non, la joie de la miséricorde, elle surgit de l'admiration d'un don restauré, renouvelé. La miséricorde du Père révèle au fils aîné quelle est sa vraie condition, être fils auprès du Père. Tant mieux s'il a de nouveau la robe de fils et l'anneau, mais c'est la filiation qui est la finalité de la miséricorde divine, révélée, restauré en celui qui pensait l'avoir perdu, l'avait refusé et qui n'avait plus conscience sa dignité fondamentale d'être humain, fils de Dieu à l'image du Père Créateur. La miséricorde, quand on lit cela, a cette capacité de régénérer l'homme dans ce qu'il est substantiellement. Il y a une joie du Père. Le pape François parle beaucoup de la joie. C'est peut-être pour nous mener, comme dans les colloques des exercices de Saint-Ignace, on termine toujours par notre Père, pour mener au Père, pour nous blottir dans les bras du Père, pour y ressentir une joie qui n'est pas toujours facile d'exprimer. Et puis, quand on est malade, quand on souffre, quand on est fatigué, on n'est pas super speedé ou joyeux, quoi, hein, mais non, c'est d'une joie profonde. Si tu veux me ravir ma joie, disait quelqu'un, viens la prendre dans les mains de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement la conscience d'un manque, mais c'est un renouvellement d'un don qui avait été fait. Et c'est le Dieu de miséricorde qui opère cette restauration dans la figure du Père prodigue. Sa puissance est telle qu'elle peut tirer le bien de toutes les formes de mal qui existent dans le monde et dans le cœur du monde. J'ai un professeur de physique en humanité qui insistait toujours, et j'ai tout oublié, mais ça ne veut rien, sur la conversion de l'énergie. Quand on met du charbon dans un train, qu'est-ce qu'il donne comme énergie et combien de kilomètres il nous permet de vivre ici? C'est, on recharge les batteries des voitures électriques et ça. Combien d'énergie nous donne une centrale nucléaire? C'était tout son jeu de faire des égalités et on n'y comprenait rien. Mais c'était une manière de voir comment se transforme une énergie quand on prend une forme nouvelle. Mais il y avait toujours ce qu'on appelle un petit déficit. Une entropie, comme on disait à l'époque, je crois. Eh bien, pour Dieu, il n'y a pas d'entropie. C'est le seul être, puisqu'il est Dieu, à pouvoir transformer un mal et en faire un bien. Sans perte ni profit, ou au contraire, du profit. Si on peut jouer avec les mots. Je m'excuse de la comparaison, mais voilà. Donc, révéler la dignité de fils, la restaurer. Un autre point, c'est la miséricorde s'exerce et s'éclaire sous le regard de Jésus lui-même. Et l'épisode de la rencontre avec la pécheresse chez Simon, le pharisien, est éclairant à ce propos. En reconnaissant ses péchés nombreux, parce qu'elle a beaucoup aimé, en posant un acte de foi en Jésus, elle peut entrer sans peur chez Simon pour en repartir en paix. Donc, il faut se rendre compte quand même qu'elle franchit des obstacles, vu sa réputation, à entrer dans la maison de Simon. Elle pose des gestes de confiance et de repentir. Elle se dispose à une expérience de pardon. Tout ce travail qu'elle opère pour s'approcher de Jésus ne peut pas se faire purement dans la culpabilité, le stress, l'angoisse, mais la peur et la confiance. C'est la foi qui guide ses pas, ses gestes et ses larmes. Sa foi l'amène aux pieds du Christ, dit Saint-Luc. Donc Luc insiste dans ce récit sur la miséricorde comme révélation. C'est Jésus lui-même qui indique à l'homme la nature et la profondeur de son péché. Péché comme rupture d'amour avec Dieu et avec les autres, dans la tradition juive, rupture de l'alliance. Mais cette rupture ne peut apparaître en vérité, en confiance, que sous le regard de Dieu fait homme. C'est l'amour qui permet cette opération vérité. Et qui permet à Jésus, à sa douce et ferme manière, de dire « Simon, j'ai quelque chose à te dire ». Donc c'est dans le chapitre 7. Il prend l'analogie de la dette, et en bon pédagogue, il dit « Quel est celui ou celle qui aura aimé le plus, celle à qui on a remis le plus ?» Il fait donc une catéchèse de l'amour, du péché et du pardon. Il révèle à Simon quelle est la véritable nature du péché et la nature de la perfection n'est pas simplement un ajustement correct aux lois, aux normes, qu'elles soient belles, comme tout pharisien peut l'estimer, bien entendu, et le recevoir. Donc Jésus montre de manière tangible dans cet épisode combien l'amour se transforme en miséricorde quand il parvient à dépasser la norme précise ou formelle de la justice. La justice est le premier pas de l'escalier, mais il faut monter plus haut. Et la miséricorde et l'amour nous permet de monter un escalier, si je peux dire, pour aller vers le Christ. Et cette miséricorde prend du temps pour s'exprimer. Ici, c'est le temps d'un dialogue, mais c'est le temps de l'évangile. Alors, j'extrapole un tout petit peu maintenant. Le temps est une ruse de l'amour de Dieu. Et Dieu a besoin de l'écoulement du temps pour déployer toute l'amplitude de sa miséricorde. C'est pour ça que dans le cours du soir, ben voilà, on prend du temps pour tel évangile, pour un autre, puis il y en a. On prend du temps pour mesurer quand même que dans leur langage différent, ces évangélistes montrent que pour recevoir toute la grâce de la miséricorde, ben, il faut du temps, soit pour comprendre, soit simplement pour tout emmagasiner, tellement il y en a de la miséricorde. La miséricorde ne peut se déployer totalement que grâce à la patience et la bienveillance de Dieu, qui nous accorde chaque jour un nouveau délai et qui veille silencieusement à ce que nous trouvions le chemin de conversion. Ben c'est pour ça qu'on peut se lever joyeux le matin, quoi. On a encore une journée pour faire le bien, ou pour chanter, ou bien, voilà. La miséricorde prend les hommes et les femmes là où ils sont et tels qu'ils sont, quand on voit la pécheresse et quand on voit le pharisien. Mais elle est révélation. Ce n'est pas une faute, ce n'est pas une erreur de logique. C'est un vrai péché, si j'ose dire, parce que c'est un acte dont la teneur nous est révélée par Dieu, par amour et pour amour. La pécheresse est pardonnée, et Simon comprend toute l'ampleur de l'interpellation de Jésus, et une fraternité peut même surgir entre Jésus, la pécheresse, et Simon, parce qu'ils sont appelés par Jésus, les deux derniers, à reconnaître qu'ils sont tous les deux des pécheurs pardonnés. Et Jésus nous enseigne aussi que si nous recevons de lui toute miséricorde, il nous conduit nous-mêmes à faire miséricorde. Si vous vous souvenez de la béatitude de Matthieu avec le père Warny, « Bienheureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde », elle n'est pas reprise texto par Luc. Mais l'exigence de faire miséricorde est bien dans la dynamique de Luc. Entre autres, au chapitre 17, verset 3, on dit « Prenez garde à vous-même ». Et Jésus invite ses disciples à pardonner sans trêve. Chapitre 17, verset 4, « Si éventuellement ton frère a péché, rabroue-le, et si éventuellement il s'est converti, pardonne-lui. Si éventuellement cette fois le jour il a péché contre toi, et cette fois il s'en est retourné auprès de toi en disant « Je me convertis », tu lui pardonneras. » Il y a un ordre nouveau là. Pas seulement « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », c'est une application, la miséricorde. Et devant ça, au verset 5, les disciples disent « Mais achète-nous un peu de foi, hein, parce que c'est impossible, quoi, c'est impossible. » Donc l'homme parvient à l'amour miséricorde de Dieu, à sa miséricorde, par grâce, et dans la mesure où lui-même se transforme intérieurement dans l'esprit d'un tel amour envers le prochain. Donc exercer la miséricorde, c'est en vivre. Il n'est pas possible d'en vivre sans faire mémoire d'une miséricorde divine sur nous et en nous. Ça, c'est la nouveauté aussi de la personne du Christ et de son message de salut. Par exemple, dans la réponse au légiste, qui est mon prochain, mais le prochain, c'est celui qui se rend proche d'autrui en lui faisant miséricorde. Voilà. Et c'est en faisant miséricorde au prochain qu'il comprend la beauté de sa vie aussi et de la miséricorde de Dieu. Et on peut se centrer aussi maintenant en terminant sur le Christ qui est miséricorde. Bien sûr, nous n'avons pas la vue, la vision immédiate du Père, et c'est dans la personne du Christ que l'invisible est devenu visible. Qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus à Philippe dans Saint Jean. Et donc si nous regardons Jésus dans Saint Luc, nous voyons en quoi Dieu est le Père des miséricordes. Jésus nous permet de voir ce qu'est la miséricorde en Dieu, comme le titre d'un livre du pape, « Mon nom est miséricorde ». Il y a trois traits où on peut le retrouver un peu rapidement, vous connaissez. Eh bien, Jésus est le paralysé avec son interpellation et son action. Qui peut remettre des péchés sinon Dieu seul? Eh bien, Jésus commence par là. Et puis, comme il lit dans les cœurs et les esprits une certaine inquiétude ou critique, il guérit aussi le paralytique. La miséricorde dans cet épisode où Jésus intervient de manière assez forte, la miséricorde de Jésus touche l'unité personnelle de tout l'être, celui qui est malade, qui est paralysé, mais aussi son cœur profond. Et donc les deux peuvent être touchés par la miséricorde de Dieu, et Jésus touche les deux dans les sacrements. Ben ça, c'est une application un peu rapide, mais c'est la manière dont actuellement, dans l'ordre de la foi, Jésus fait miséricorde et donc il nous touche en notre corps. Tout sacrement, c'est pas une idée ou une idéologie, c'est du pain et du vin, c'est de l'eau, c'est les larmes du pécheur, c'est se mettre à genoux, c'est un geste qui touche le corps. Eh bien, ce mystère de miséricorde traverse toute jalousie, toute confrontation, tout péché, toute comparaison. Dieu touche tout. Et l'autre épisode que j'ai déjà cité, mais qui est magnifique, si vous le relisez, donc dans Saint-Luc, chapitre 22, 37, eh bien, il a été mis, Jésus, sur la croix, compté avec des 100 lois. Et de nouveau, cette distinction apparaît. S'il a une justice humaine, elle doit s'exercer pour les malfaiteurs sur la croix et pour l'innocent dans l'acquittement et le salut. C'est le contraire qui se passe. Mis au rang des pécheurs, Jésus est miséricorde en acte. Il dépasse toute justice en son corps. Et c'est pour ça que sa puissance s'exerce dans l'acte d'abandon au Père, dans l'acte de mourir, et dans sa parole, une des 7 dernières paroles du Christ au bon larron qui dit « Amen, je te le dis aujourd'hui, avec moi tu seras dans le paradis. » C'est extraordinaire. Donc, ces deux exemples nous montrent, je résume, que nous sommes dans un hiatus, dans un trou, quelque part. Mais il ne faut pas se tromper sur les rebords. Quand on est dans un trou, ou un trou moral, ou un trou du péché, où est-elle la miséricorde? Eh bien, en général, pour ce que j'ai lu et entendu, etc., mais dans Saint-Luc, ça apparaît de manière assez claire, c'est que nous sommes d'abord tous sous l'arc de la miséricorde. Le pape traduit en disant « Nous sommes tous des pécheurs pardonnés », mais il dit l'Évangile. Et donc avant ça, avant toute faute ou toute action, que ce soit le pharisien ou la pécheresse, ils sont tous les deux pécheurs pardonnés. Et c'est parce qu'ils sont pécheurs pardonnés qu'ils peuvent faire le bien, faire aussi, puisqu'ils sont libres, faire le mal aussi. Et donc, la faute que l'on pose, dans un vocabulaire plus philosophique, ou le péché que l'on commet, s'il nous est révélé par l'Esprit Saint, c'est un rappel, non pas de notre impuissance totale, puisque nous savons déjà que nous avons été pardonnés, mais c'est un rappel humiliant, qui nous pousse à l'humilité, pour nous conduire à crier au Seigneur, « Révèle-toi comme le Dieu de miséricorde, encore et toujours. » Donc dans le temps de l'homme, on est avant ou après la faute, avant ou après l'acte historique du don de Christ pour tous sur la croix. Pour certains chrétiens, le pardon, il est au-delà de la morale. Pour d'autres, un peu au sens pharisien, noble du terme, le pardon, c'est ce que nous ne devrions pas avoir besoin, car nous avons la pureté de cœur. Et pour d'autres, enfin, c'est ce que j'essaie de montrer, le pardon est ce sur quoi il nous faut compter, vivre et nous enraciner. Donc la miséricorde, le pardon de Dieu, le fait d'exister, le fait d'avoir été pardonné, baptisé, etc., c'est un ressort, c'est un tremplin pour mieux agir, pour être saint, diront certains, mais pour faire le bien, pour mieux ressembler au Christ. Donc nous, pour changer nos vies, nous n'attendons pas le pardon à la fin de notre vie. Il a déjà été donnée dès notre conception. Nous n'attendons pas une somme de purification rituelle, comme dans certaines religions orientales, au bout duquel ben, on sera quand même finalement assez propre, quel que soit le savon qu'on a utilisé, je caricature. Mais le pardon, il est déjà là. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un messianisme, réconciliation des classes, etc. Dans l'histoire, c'est que déjà en Christ, parce qu'il a assumé notre nature humaine dans l'incarnation, mais aussi sur la croix, et qu'il est ressuscité, l'univers est déjà réconcilié. Et si je peux voir un jour, parce que j'ai des idées noires, le monde entièrement obscur et noir, surtout que le plafond est bas en Belgique, je peux aussi affirmer clairement que le soleil existe, avec autant de certitude et de force, c'est-à-dire que la miséricorde me permet de vivre, elle renoue toujours avec le dessein originel. Et donc, et c'est ça l'attestation de Jésus qui plonge dans les puissances des ténèbres, au chapitre 22, verset 53, c'est pour que la lumière de sa filiation divine, de sa royauté, et entre, de sa messianité, entre jusqu'aux enfers, au pluriel, et qu'elle puisse apparaître au grand jour, un jour. Le juif, comme le centurion, au pied de la croix, affirme qu'il y a une figure parfaite de l'innocence, c'est lui le juste. L'unique juste, celui qui est mort pour nous. Je termine. La miséricorde passe donc par le corps livré du Christ, livré aux mains d'hommes pécheurs. Et ce mystère reste actuel à travers le corps de l'Église, des baptisés, et aussi des divers ministères de miséricorde, soit les sacrements, mais aussi, comme parle cette année de la miséricorde matérielle, spirituelle, etc. Cette miséricorde pour Luc annonce un ciel nouveau et une terre nouvelle comme dans l'Apocalypse. La croix, tant que le monde ne sera pas totalement réunifié et en Christ, la croix sera le lieu où l'amour se révèle miséricorde. Donc la personne du Christ sur la croix est un appel paradoxal pour tout chrétien. Puisque le Christ est identifié à tout pécheur et au péché même, dit Saint Paul. Eh bien, il s'offre à notre miséricorde pour nous dire « Je te fais miséricorde, je t'ai fait miséricorde, je te ferai encore miséricorde. » Et cette miséricorde que je t'ai faite, tu dois la vivre dans un admirable échange avec tes frères et sœurs. Tout comme le Christ vit un admirable échange en sa personne entre sa divinité, il est le Logos, seconde personne de la Trinité, et il est aussi un homme parmi les hommes, un vrai fils de l'homme. Je termine pour être à l'heure, mais je suis déjà en retard. Voilà, et je laisse.